bien, la question du jour que nous vous posions hier pour aujourd'hui était la suivante. La popularité persistante de Mein Kampf, le livre d'Adolf Hitler dans le monde arabo-musulman, vous choque-t-elle? Alors Lise, qu'en ont pensé nos auditeurs?
La majorité sur Insta et sur Facebook, c'est oui, c'est même une grosse majorité de oui, 80% pour l'un, 82% pour l'autre. Et sur X, en revanche, majorité de non, 67%. On va donc demander son avis à notre invité, Ephraim Herrera. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Vous êtes orientaliste et docteur en sciences des religions. Est-ce que vous, cette popularité persistante de Mein Kampf dans le monde arabo-musulman, elle vous choque?
Non, elle n'est pas étonnante surtout. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Mein Kampf est populaire pas parce qu'il va dans le, il va et inventer quelque chose de nouveau pour le monde musulman. Il va dans le sens de l'antisémitisme classique, endémique. L'influence nazie ne porte pas sur le fond. Le juif est détesté dans l'islam bien avant l'apparition du nazisme. Il est détesté pourquoi ? Parce que ce sont les premiers qui se sont opposés à Mohammed. Ce sont ceux qui, selon l'islam, se sont associés à ses ennemis, ont même causé la mort de Mohammed. Et toutes les écoles disent, d'ailleurs c'est dans le Coran, que Allah nous a transformés en singes et cochons, que le courroux d'Allah est contre nous, c'est ce que disent les musulmans tous les jours, et des fois 17 fois par jour. Et que le plus, c'est qu'à la fin des temps, dans la guerre eschatologique de l'islam, elle sera contre les juifs, et tous les juifs seront mis à mort. Ça c'est la tradition musulmane classique. Et on voit que effectivement, par exemple, Haj Hamid al-Husseini, dès 1920, organise un pogrom. C'est avant la montée du nazisme. Et ensuite, il rencontre Hitler et il écrit un pamphlet pour former les Waffen-SS en Bosnie. Et dans ce pamphlet, quand on lit ce qu'il écrit, c'est basé principalement sur les sources musulmanes de l'antisémitisme pour justifier la mise à mort de tous les juifs. Ce qu'apportent les nazis, c'est la technologie, c'est la manière méthodique de le faire. Mais en fait, on voit donc un continuum de cette haine quand les juifs en fait étaient des tant qu'ils étaient dhimmis, à savoir non citoyens, humiliés en continu, devant porter des habits spéciaux, ne pouvant pas marcher sur le même trottoir, ne pouvant qu'un musulman, ne pouvant pas construire de synagogue, etc. Dans toute l'histoire de l'islam, alors ils étaient supportés, mais pas plus. Du moment où on a retrouvé cette terre d'Israël, la simple présence de juifs indépendants en Israël, c'est une triple impureté qui fait que l'islam, de facto, prend une position antisémite. Et on voit d'ailleurs que tous les grands sages, ou la plupart, disons, des grands sages de l'islam d'aujourd'hui soutiennent le Hamas dans ce qu'il a fait le 7 octobre.
Oui. Alors, la diffusion de Mein Kampf, elle s'explique aussi parce que ça a été traduit en langue arabe depuis les années 60 par un monsieur qui s'appelait Louis Salah Hadj, qui est un ancien nazi qui a été exilé en Égypte après la Seconde Guerre mondiale et qui s'était converti à l'islam. Et contrairement aux éditions européennes, on va dire, et aux versions anglaises qui ont un appareil critique, cette version en arabe, elle est hagiographique sur Mein Kampf et sur Hitler.
Ah oui, elle est très répandue, et non seulement dans tous les pays musulmans, on le voit par exemple aussi en Turquie, c'est pas uniquement dans la bande de Gaza qu'on va le trouver. On va le trouver partout, et d'ailleurs, en plus de Mein Kampf, on va trouver le protocole des sages de Sion, avec cette idée qui vient, elle, de Russie, et pas d'Allemagne. C'est-à-dire que le monde musulman a adopté l'antisémitisme occidental parce qu'il rejoint sa thèse fondamentale.
Et oui, bien sûr. Et on voit bien que les passages antisémites du livre vont donc être répétés dans le contexte, cette fois, du conflit israélo-palestinien. On sait que Mein Kampf était au top 6 des livres qu'on peut trouver à Gaza, avec des copies partout, et y compris dans des caches d'armes du Hamas.
Absolument. D'ailleurs, nos soldats témoignent qu'ils l'ont trouvé dans de nombreuses maisons, dans de très nombreuses maisons. C'est-à-dire que c'est pas un best-seller qu'ensuite on a mis à la cave. Il est lu, il est apprécié parce qu'il vise à l'annihilation du peuple juif dans son ensemble, qui est en fait le projet de l'islam, tant dans le monde sunnite que dans le monde chiite.
Bien sûr. Et là, on voit en fait qu'ils ont donc le même objectif, c'est ce que vous nous expliquez, Efraïm Herrera, et du coup, cette convergence entre l'antisémitisme européen classique et l'islamisme et se voit particulièrement dans Mein Kampf.
Et en fait, ça va dans les deux sens, parce que très souvent, il y a un espoir de certains courants dans le monde occidental de voir la réalisation du projet nazi se faire par musulmans interposés.
Mais est-ce que ça signifie que depuis le début, il y avait cette volonté d'intégrer les théories du nazisme dans, par exemple, les frères musulmans, des gens qui ont créé cette idéologie islamisme du Hamas au départ?
Ah oui, on voit par exemple chez Saïd Qutb, qui était un des grands penseurs et un des dirigeants, c'est pas le premier, ça doit être le troisième des frères musulmans, qui a écrit un livre qui s'appelle Marakatuna Ma'a El Yahoud, notre guerre avec les juifs, où il dit que c'est le pire des ennemis de l'islam. Et que, en fait, c'est, après le Satan, c'est le pire des ennemis, c'est pire que les associateurs, comme ça il l'écrit. Et pour lui, tout ennemi de l'islam, en fait, est juif. Par exemple, il disait qu'Atatürk, qui a fait la grande réforme en Turquie, qui a tenu quand même un centenaire, était juif, alors que c'est évident qu'il ne l'était pas. Mais donc, on voit dans l'ennemi de l'islam le juif, même s'il n'est pas juif.
Eh oui, bien sûr. Alors, ce qui choque souvent, pour finir, Efraïm Herrera, c'est que justement, il y a un inversement des valeurs et qu'on traite les juifs et les Israéliens de nazis.
Oh oui, ça, d'ailleurs, le monde occidental, en fait, se déculpabilise des crimes qu'il a commis pendant la Deuxième Guerre mondiale en disant « si les Juifs font la même chose, alors, comme disait un commentateur, on remet la balle au centre ». En fait, c'est très du fait qu'on nous accuse, cette accusation de génocide, alors que la population de Gaza a augmenté selon les chiffres officiels non israéliens depuis le début de la guerre. Donc c'est clair qu'on n'est pas des génocidaires, on n'a pas cette intention, il n'y a eu aucun ordre et aucun fait qui vient corroborer cette thèse. Mais le fait de nous accuser de ça, les dédouane, les déculpabilise et en fait disent bah, « bah, finalement c'est banalité du mal, tout le monde fait ça ».
Et quand en 1941, Hitler reçoit le grand mufti de Jérusalem, qui est l'un des architectes vraiment de l'islamisation du mouvement arabe, qu'est-ce qu'ils se disent, Efraïm Herrera?
Bon, on voit la suite. En fait, Khadja Amin al-Husseini reçoit deux choses. Un, le mandat d'écrire ce pamphlet qui va former la division des Waffen-SS bosniaque qui va... et avec l'idée de mettre à mort les Juifs dans toute la région qui sera sous la domination de cette division, et de l'accord d'Hitler que si ils arrivent ici en terre d'Israël, tous les Juifs seront mis à mort. On a eu la chance qu'à El Alamein, les troupes de Rommel ont été arrêtées.
Oui, sinon on serait dans un autre monde aujourd'hui. Alors, merci d'avoir été avec nous, Efraïm Herrera, ce matin, docteur en sciences des religions, pour nous expliquer cet objectif commun, malheureux, entre le nazisme et le monde arabo-musulman. Bonne journée à vous et à très bientôt.
Merci, au revoir.